Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est le meilleur de Sud Radio. Une heure ensemble pour réécouter les meilleurs moments de cette semaine avec les routes de l'été, également Love Music et puis le grand matin été. Mais tout de suite, on démarre avec les vraies voix, 17h-19h tous les soirs qui reviennent sur une des actus de cette semaine.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
C'est un film qui sort aujourd'hui en salle, qui s'appelle Bac Nord, qui parle de la police et qui fait déjà polémique. Question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio, peut-on faire un film sur la police sans faire polémique? Parce que c'est pas le premier sur la police qui fait scandale, il y en avait eu un il y a plusieurs mois qui s'appelait Les Misérables et pareil. Écoutons d'abord la bande-annonce de ce film assez spectaculaire, Bac Nord.
Tu serais qui toi? Tu serais pas ton insigne? Tu serais quoi? Tu serais quoi? Tu serais rien.
Là, on a envie de niquer le réseau, nous. Faut que tu me donnes une vraie info, là.
5 kilos. Trouve-moi 5 kilos, je te trouve une info.
C'est impossible. Cette cam est enregistrée. Fais comment, nous, là? Arrangez-vous, je sais pas, je veux pas savoir.
Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne nous donne les moyens de travailler? Il faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet, le premier, veut juste faire la une du journal pour faire le beau.
Tu veux devenir officier? Fais cette opération.
Bac Nord, des policiers marseillais... en crise avec leur hiérarchie, qui font face à la violence jour et nuit et qui à un moment finissent par craquer. Ça, c'est l'histoire de ce film, un film qui avait été présenté au Festival de Cannes et qui déjà avait fait polémique. On écoute la réaction à l'époque d'un journaliste irlandais.
Félicitations, c'est un super film, très 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 fort, mais il y a juste une chose qui m'a gêné un peu. Donc on est en année d'élection et moi j'ai vu ça de l'œil d'un étranger un peu et je me dis ah oui, moi je vais me voter Le Pen après ça quoi. Parce que les cités, les gens dans les cités, moi je viens d'une cité en Irlande, la question c'est en fait à part de le petit garçon, le petit bête sauvage qui est dans la voiture de la police, il n'y a que les gens de la cité sont que de bêtes quoi en fait.
Les gens des cités sont-ils présentés tous comme des bêtes? C'est ce que pensait ce journaliste irlandais qui disait que ce film le poussait presque à voter Le Pen quand il le regardait. C'est le reproche inverse de celui qu'on avait fait au film Les Misérables de Lajli, qui avait été accusé par une partie de l'opinion de présenter les policiers comme des bêtes et comme des sauvages. Comment on fait pour s'en sortir? Je vous propose d'abord le témoignage d'un policier anonyme. On va vous appeler Kevin. Bonjour à vous, Kevin.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors, vous êtes policier dans une grande région en France et vous l'avez vu ce film. Question d'abord, est-ce qu'il décrit bien votre quotidien de policier?
Alors effectivement, moi j'ai vu ce film en avant-première cette semaine. Il décrit pour la grosse majorité du film effectivement des scènes qu'on vit au quotidien.
Par exemple,
Que ce soit les relations qu'on a avec la population, avec une certaine partie de la population qui est assez défiante. Hein. C'est pas non plus toute la population qui est défiante vis-à-vis de nous, mais c'est vrai qu'il y a un certain noyau dur dans certains endroits, dans certains quartiers où il y a clairement plus de relationnel. C'est que du conflictuel. Donc effectivement, ça rejoint ce qu'on vit au quotidien. On a aussi les relations qu'on a, par exemple, qu'on peut avoir avec notre hiérarchie, où effectivement, parfois, on se sent un peu délaissé, que ce soit par la hiérarchie ou par l'institution d'une façon plus générale, en termes de moyens humains, moyens judiciaires, etc.
Et ça, c'est bien dépeint et décrit par le film. Vous avez entendu ce commentaire d'un journaliste irlandais qui disait, il essayait de le dire, en tout cas en français, au Festival de Cannes. Moi, je le regarde, j'ai envie de voter Le Pen. Est-ce que vraiment ce film, il présente tous les habitants des banlieues pour vous comme des bêtes, c'est ce que disait le journaliste.
Non, justement, parce que alors après, je ne peux pas trop rentrer dans le détail forcément par rapport au film, parce que sinon ça permettrait pas aux gens de le découvrir.
Ne le divulguez pas, vous avez raison.
Voilà, exactement, mais c'est pas tous les habitants de toutes les cités, partout en France, qui se comportent de façon violente, de façon défiante des états de police. Donc voilà, il y a des habitants qui sont très heureux de nous voir, il y a des habitants qui, pour leur grosse majorité, qui ont besoin de nous, qui n'hésitent pas à faire appel à nous, mais effectivement, il y a une petite frange qui est assez parfois très violente. On peut le voir dans le film. Après, forcément, c'est exacerbé parce que ça reste un film et c'est condensé sur une heure et demie, deux heures. Donc forcément, on peut pas tout voir en sachant qu'il y a quand même une intrigue de base qui est l'affaire de la Bac Nord.
Voilà.
Donc, je vais essayer de varier sur le sujet et d'avoir à peu près tous les points de vue. Donc effectivement, c'est pas non plus toute la population de toutes les cités de France qui sont des bêtes immondes et qui ne permettent pas à la police de faire son travail correctement.
Et ça, vous le rappelez, vous tenez à le rappeler, vous avez raison. Dernière question peut-être, Kevin, est-ce que vous aviez vu le film Les Misérables de Lajli? il y a plusieurs mois, qui était accusé d'avoir le biais inverse, c'est-à-dire d'être trop dur avec la police.
Tout à fait, j'avais vu ce film également. Ouais. Et effectivement, de toute façon, je pense que, et là c'est pour en revenir sur la question principale, hein, ouais, je ne pense pas qu'il puisse être possible de faire un film sur la police qui contente tout le monde. Mm-hmm. Y aura forcément de la polémique parce que le film, quand bien même il soit, on va dire, neutre, il y aura toujours des gens pour trouver que ah mais nous on voit des policiers qui sont méchants, qui sont violents, dans le film on s'y retrouve pas, ou nous on voit des jeunes et des moins jeunes qui nous agressent dans les cités du point de vue policier et on s'y retrouve pas. C'est compliqué de faire un film qui fera de toute façon pas polémique et qui contentera tout le monde. Donc c'est à mon sens voilà, effectivement le film Les Misérables qui est sorti il y a quelques mois maintenant, il était beaucoup plus axé moins sur le travail et sur la difficulté de la police. Ouais. Que sur le ressenti de certains jeunes dans certains quartiers par rapport à la police.
C'est vrai. Merci beaucoup, Kevin, pour votre témoignage. Je pense que vous allez retourner en service, justement. Donc, merci de nous avoir donné la parole sur Sud Radio. Faites attention à vous aussi, parce que quand on voit aussi ce qui peut vous tomber sur la figure, notamment dans ce film, on se dit que s'il décrit bien ce film, votre quotidien, faites attention à vous. Merci beaucoup.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Les vraies voix, 17h-19h sur Sud Radio. Allez, on embarque tout de suite, on fait le tour de la France avec Vincent Fergnaud. Ce sont les routes de l'été tous les matins, 10h midi. Et Vincent Fergnaud nous fait découvrir chaque jour une région différente.
Sud Radio, mangez, bougez.
Bonjour Julie.
Bonjour Vincent.
Je vous propose un petit deal. Hein. Oui. Moi je m'occupe de manger et vous occupez de bouger.
Ah, ça c'est va comme ça depuis le début, je suis
pas. Oui, enfin, je pensais qu'il y en avait qui n'étaient pas au courant.
Et c'est ça exactement. Aujourd'hui on va aller faire un peu de sport à Montbéliard.
À Montbéliard, fameuse saucisse. Hein.
Et alors non, on va pas aller faire de la saucisse.
Je le dis au passage, Sochaux-Montbéliard, voilà. Très
non, on va aller découvrir le padel.
Le padel?
Non, le padel.
Le padel.
Le padel.
Ça veut dire qu'on a padel, donc on vole avec les bras écartés.
Non, c'est pas ça. On va aller voir Laurent Asnard, président de l'association de l'ASCAP et président de la commission régionale de padel en Franche-Comté.
D'accord.
Qui va nous expliquer ce que c'est. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent Asnard.
Bonjour à vous deux.
Alors, bon, moi, vous savez, je ne savais pas du tout ce que c'était le padel.
Eh ben, ça fait deux, hein, ça fait deux. Moi, je...
Voilà.
Éléonore,
vous... Ça fait trois.
Il y a besoin de promo.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est le padel?
Alors déjà, surtout, ne pas confondre paddle et padel.
Ah ben, j'ai compris,
oui,
hein.
Parce que le padel, effectivement... c'est avec une rame et au début, quand on a lancé l'activité il y a 4 ans, c'est vrai que les gens nous demandaient où était notre plan d'eau. Le padel, c'est un sport de raquette. C'est sous l'égide de la Fédération française de tennis depuis 2014.
D'accord.
Donc c'est un sport qui est extrêmement populaire en Espagne puisque c'est le deuxième sport le plus pratiqué. Alors même si on pense qu'en Espagne, c'est le tennis, pas du tout. En fait, donc c'est un sport... qui vient effectivement de l'Espagne et qui s'est développé depuis 7-8 ans en France, alors essentiellement d'abord par le sud de la France, le sud-ouest, le sud-est, les grandes métropoles. Et nous, en Bourgogne-Franche-Comté, alors on est le premier club de tennis qui s'est lancé dans cette aventure en fin 2017. Et on est en plein essor, en plein développement au niveau du club avec le nombre de pratiquants, mais aussi au niveau de la région où on est en train de doubler nos structures.
Ah, génial.
Donc le padel, c'est un sport de raquette, c'est un mini court de tennis. Donc un court de tennis aujourd'hui, c'est 36 mètres par 18. Un court de padel, c'est 20 mètres par 10 mètres. Donc c'est un espèce de mix entre le tennis et le squash, hein, parce qu'en fait... votre mini court de tennis est fermé par des grillages et par des verres, par des parois en verre.
Un peu
et
comme la pelote basque, au fond.
Un petit peu comme la pelote basque ou comme le squash, hein, c'est pour ça qu'effectivement...
Ou le racquetball, parce que ça ressemble aussi à ça, non?
Non, alors je connais pas le racquetball.
Vous êtes moins branché racquetball.
Okay. Voilà, je suis moins branché racquetball. ce qui est certain, c'est que c'est un sport qui se joue qu'à 4.
D'accord.
Donc déjà, ça ne se joue pas à deux. Et ce sport a vraiment trois caractéristiques vraiment très importantes. Un, c'est son accessibilité. Contrairement au tennis où la technicité est très importante. Donc là, vous vous servez par exemple à la cuillère, hein, vous ne servez pas par-dessus.
Donc c'est plus simple.
Ce qui est évidemment plus simple.
Mais c'est interdit ou on peut le faire quand même?
Ah non, non, c'est interdit. C'est vraiment d'accord. Voilà, vous me servez à la cuillère.
Comme au badminton, quoi.
Et exactement. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, vous avez une raquette qui est très maniable, ce qui fait qu'effectivement, des gens voilà, qui ne sont pas forcément très sportifs ou qui ne connaissent pas, qui n'ont pas une culture de sport de raquette, très rapidement vont toucher la balle, vont se faire plaisir. Et puis, la grosse différence par rapport au tennis, c'est qu'effectivement, la balle peut revenir avec les verres qui sont derrière ou les grillages qui sont sur le côté, ce qui fait qu'en fait voilà, le rebond est toujours possible et c'est extrêmement spectaculaire et c'est très convivial.
Le filet est à quelle hauteur ?
Le filet est à 80 cm.
Voilà, c'est comparable donc au tennis de ce point de vue-là.
Exactement. Voilà, de ce point de vue-là, c'est comparable au tennis. D'un point de vue règlement, c'est aussi complètement comparable au tennis parce que le système de comptage est exactement le même qu'au tennis. Hein, donc c'est des points, des jeux, des sets.
15, 30, 40 jeux.
Exactement. Sets. Voilà, okay. C'est exactement comme au tennis. Voilà. Mais la grosse différence, c'est qu'effectivement, il doit toujours avoir un rebond dans le camp opposé et la balle peut revenir avec les vitres. Et du coup, bah, la balle est souvent en jeu et donc, je vous dis, c'est extrêmement spectaculaire.
Bah,
donc c'est très convivial, c'est spectaculaire, c'est accessible.
Et ça prend moins de place, donc normalement, dans des sites urbains, c'est plus facile.
Et exactement, et par exemple, dans notre club, alors on a fait le sacrifice d'enlever un terrain de tennis couvert, et à la place d'un terrain de tennis couvert, on a réussi à mettre deux paddles. Donc c'est aussi...
Dans la largeur,
la largeur, exactement. Et du coup, on a doublé finalement notre infrastructure.
Et si on joue qu'à 4, en plus, ça fait 8 joueurs au lieu de 2 sur un court de tennis. Ah bah dites donc, c'est bien.
Et exactement, et derrière, voilà,
c'est social.
C'est extrêmement social, convivial. Et voilà, et grâce aussi à ce sport, on a relancé aussi toute la convivialité du club parce que voilà, quand vous allez jouer au padel en Espagne, voilà, il n'y a pas une partie qui se termine pas derrière avec la pression, le bar. Voilà, donc c'est aussi extrêmement convivial. Voilà.
Et donc Laurent, tout le monde peut y jouer, même les enfants, on peut les amener.
Exactement, exactement. Nous, on a développé une école de padel depuis cette année. Voilà, donc effectivement ouvert aux enfants de 6 à 18 ans. C'est extrêmement multigénérationnel. Le fait que ça soit très accessible, bah, nous, on voit beaucoup de familles jouer, hein, les parents qui viennent jouer avec leurs enfants, leurs ados.
Oh bah non, on a compris que c'est ludique et qu'il ne faut pas trop de technique. En revanche, moi, je militerais pour que ça s'appelle, par exemple, le padel ball. Hein, parce qu'au moins, on saurait de quoi on parle. Parce que paddle, c'est pas simple.
C'est un peu trop proche.
Alors, après, voilà, vous pouvez parler aussi du paddle tennis. Mais en tout cas, c'est vraiment...
Ah, tennis, voilà.
Vous pouvez parler paddle tennis.
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir expliqué ce qu'était le paddle. Où on peut vous retrouver ?
Ah ben, vous pouvez nous retrouver donc à Montbéliard, hein, donc l'ASCAP Tennis à Montbéliard, donc c'est le seul club de tennis voilà, qui pratique le paddle avec quatre structures.
Moi, d'accord. Ma seule activité à Montbéliard était de manger une bonne saucisse de Montbéliard avec un mont d'or fondant, une boîte comtoise, je viendrai te dépenser après.
C'est pas trop la saison,
Il n'y a pas de saison.
Vous pouvez venir faire un petit peu de padel après, voilà.
Ah ben, ça sera nécessaire même. Merci beaucoup,
merci.
Laurent. Allez, bonne journée.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Les routes de l'été, 10h midi sur Sud Radio et puis en podcast sudradio.fr. Dans quelques instants, le grand matin été et le Love Music pour les meilleurs moments de cette semaine dans le meilleur de Sud Radio. Ne bougez surtout pas.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
C'est le meilleur de Sud Radio. Dans quelques instants, le grand matin été, les vraies voix. On va revenir sur tout ce qui a marqué cette semaine. Mais d'abord, le groupe Lounis. Voici J'aimerais danser sur Sud Radio.
On se disait pas le temps, pas envie, pas longtemps. Mais depuis, y a la vie qui a cramé. Souviens-toi le beau soleil sur les fleurs en été. Quand il faisait nuit, on pouvait voir la voie lactée. On se disait, y a le temps, on verra doucement. Mais très vite, y a la vie qui a cramé. Souviens-toi l'océan dans tous ses grands bleus. Aller. Quand il faisait beau, on voyait le soleil plonger. Et moi, je me disais, ça va passer. Et moi, je me disais, oublie tout. Souviens-toi le jour où tu m'as emmené danser. Il y avait toi, il y avait moi, plus rien à penser.
J'aimerais danser avec toi tout le temps. J'aimerais danser avec toi tout le temps. J'aimerais danser avec toi tout le temps.
Le temps, c'était pire, y a longtemps. Et voilà, y a la vie qui a cramé. Souviens-toi les beaux jours où tous les oiseaux dansaient. Bien avant nous, bien avant tous les oiseaux dansaient. Et moi, je me disais, ça va passer. Et moi, je me disais, oublie tout. Souviens-toi le jour où tu m'as emmené danser. Il y avait toi, il y avait moi, plus rien à penser.
J'aimerais danser
Avec toi tout le temps, j'aimerais danser. Avec toi tout le temps, j'aimerais danser. Avec toi tout le temps. Avec toi tout le temps, j'aimerais danser. Avec toi tout le temps, j'aimerais danser. Avec toi tout le temps, j'aimerais danser. Avec toi tout le temps. Oh, oh, oh. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps.
Après leur duo avec Boulevard Désert, c'était Louni, c'est leur dernier titre, J'aimerais danser sur Sud Radio. Allez, on va faire un petit tour du côté du Grand Matin, été, 6h-10h tous les matins, avec Benjamin Glaise et Marilyn Hérault. On écoute tout de suite un extrait de ce qui s'est passé cette semaine.
Sud Radio, le Grand Matin, été, 7h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
Bienvenue sur Sud Radio, il est 9h33, c'est le petit-déj de l'actu. On débat aujourd'hui, est-on réellement prêt en France à faire face à la multiplication et à l'intensification des événements climatiques? Nos deux invités, Jean-Pascal Vanipercel, climatologue, professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique et ancien vice-président du GIEC, et le colonel Michael Bruno, directeur adjoint du SDIS 58 dans la Nièvre.
Et on va répondre justement aux deux questions de Jérôme, notre auditeur qu'on avait il y a quelques minutes. Tout d'abord, cette première question, elle est pour vous, hein, colonel Michael Bruno, sur les origines de ces feux en général. On le dit souvent, c'est d'origine humaine à pratiquement 100%, c'est ça à peu près. Est-ce qu'il existe des causes plus naturelles à ces incendies? Et lesquelles?
Alors, pour vous confirmer la cause humaine, je vais reprendre un poste de notre président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le colonel Allion, qui est sorti il y a une journée sur le feu du massif des Morts, qui dit « Le feu est parti au bord d'un axe routier, la main de l'homme n'est peut-être pas innocente ». Tout simplement pour vous dire que la très très grande majorité des débuts de feu, que ce soit des feux de végétation au sens large, hein, que ce soit des feux de culture ou des feux de forêt, sont issus de la main de l'homme. Alors que ce soit de la négligence, de l'imprudence, de l'acte volontaire. Quand je dis de la main de l'homme, ça peut être une cigarette, comme ça peut être l'utilisation d'outils ou de matériel forestier. Nous, les feux qu'on a eus depuis…
Ou des disqueuses, par exemple. Ouais.
Des disqueuses ou des matériels forestiers. Donc, c'est essentiellement de la main de l'homme. Alors, il y a d'autres phénomènes qui sont quand même relativement rares sur les feux de végétation et les feux de forêt, ou indirectement de la main de l'homme. Une moissonneuse-batteuse qui met un feu sur un feu de culture, c'est de la main de l'homme. Quelque part, c'est une imprudence, une négligence, parce que la moissonneuse-batteuse n'est pas entretenue. Ouais. Alors, d'autres phénomènes existent, alors principalement dans d'autres types de feux. Là, en ce moment, on a quelques feux de stockage de foin. Il y a des phénomènes de fermentation avec des foins et des balles de foin qui ont été rentrées ou de paille qui ont été rentrées avec beaucoup d'humidité, avec un taux d'humidité important. On a des phénomènes de fermentation en ce moment dans les stockages, dans les hangars de stockage de ces bottes de foin et de paille qui font qu'on a des débuts de feu. Après, on peut avoir des phénomènes donc de fermentation qui existent aussi dans les silos. Hein. Mais maintenant, sur les feux de végétation, très, 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 très souvent, la main de l'homme en est la cause.
Jean-Pascal Vanipercel, pour vous, la deuxième question, en l'occurrence de Jérôme, notre auditeur, un peu sur de la science-fiction, mais quoique, parce que pour le coup…
On fabrique bien de la neige.
Voilà, et puis alors, du côté de la Chine, on se targue d'ici 2025 de faire la pluie et le beau temps, de pouvoir faire grêler, d'avoir de la pluie, en tout cas, pouvoir justement faire en sorte qu'il pleuve à tout moment. Est-ce que c'est vraiment envisageable? Ça, est-ce que c'est possible et est-ce que si on fait de la science-fiction, est-ce que ça pourrait éventuellement nous aider à régler ces problèmes, en tout cas dans l'instant, on va dire, dans l'urgence, problème d'incendie par exemple?
En deux mots, non. Parce que ça fait 50 ans qu'on fait des recherches là-dessus dans différents pays et il n'y a pratiquement pas d'études qui montrent qu'on aurait pu vraiment provoquer de la pluie là où il n'y en aurait pas eu normalement. Vous citiez l'exemple de la neige. Mais l'exemple de la neige que l'on fabrique, on amène des quantités énormes d'eau pour fabriquer de la neige. Et il faut du froid.
On ne peut pas créer des nuages et tirer dedans pour que ça fasse de la pluie encore.
Voilà, parce qu'une des raisons pour lesquelles on a un assèchement dans le bassin méditerranéen ou une zone dans laquelle il n'y a pas de pluie, c'est que l'air est dans une zone de haute pression en train de descendre. Et si l'air descend, eh bien, cela s'oppose au mouvement de convection, au mouvement ascensionnel qui existe en amont des nuages. Et donc, venir bombarder, essayer de bombarder l'atmosphère avec de l'argent, des choses comme ça, ce qui a été essayé effectivement en Russie, en Chine, dans beaucoup d'autres pays, eh bien, ça marche très rarement. Et rien ne dit vraiment qu'on n'aurait pas eu de pluie à cet endroit-là si on n'avait rien fait non plus. Donc, c'est très difficile de montrer l'efficacité de ces techniques-là. Par contre, là où nous avons une part du climat futur entre nos mains, c'est du côté de l'utilisation des combustibles fossiles. C'est très indirect, mais on sait que la combustion du charbon, du pétrole, du gaz provoque des émissions de CO2 et que ces émissions de CO2 jouent un rôle d'isolant autour de l'atmosphère et que c'est cet isolant thermique qui piège la chaleur en dessous de cette couche d'isolant et qui contribue au réchauffement et à tous les événements climatiques extrêmes associés à ce réchauffement, à ce dérèglement du climat. Et ça, c'est entre nos mains encore, pour le futur en tout cas. Pour ce que nous n'avons pas encore émis, nous pouvons décider de décarboner, d'utiliser moins de carburants fossiles, de déboiser moins aussi. Et si nous faisons ça, nous irons en tout cas beaucoup moins vite vers un climat encore plus déréglé qu'aujourd'hui.
Et ben voilà, en tout cas, on finira sur cette note d'espoir. Merci beaucoup Jean-Pascal
Vanni-Percel,
je rappelle, climatologue, professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique, ancien vice-président du GIEC. Merci aussi à vous, colonel Michael Bruno, directeur adjoint du SDIS de la Nièvre. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous sur Sud Radio. Et puis, on remercie aussi Jérôme, notre auditeur,
de Carcassonne,
qui nous avait appelé au 0826-300-300 pour ces deux questions. C'était important, justement, de pouvoir y apporter notre réponse. Merci à vous. Et on termine avec le résultat final de ce sondage. On rappelle la question qu'on vous a posée depuis ce matin sur nos réseaux sociaux. Est-on réellement prêt à faire face à la multiplication, à l'intensification des événements climatiques? Le résultat final, Marilyn.
77% des sondés disent non. On n'est pas prêt.
Avec un petit commentaire, peut-être?
Alors, c'est plutôt une citation que je trouve assez intelligente de LR407 qui dit « Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas. »
Ah ben voilà.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Le grand matin était 6h-10h tous les matins, Benjamin Glaise et Marilyn Hérault. Allez, un peu de musique dans quelques instants, le Love Music. Et puis, les vraies voix, c'est dans le meilleur de Sud Radio. Surtout, ne bougez pas.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, c'est le meilleur de Sud Radio. On aura dans quelques instants le grand matin été, les vraies voix ou encore Love Music. Mais d'abord, un peu de douceur. Voici Norah Jones et Sunrise sur Sud Radio.
Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? 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 Do you surprise? Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who? Ooh.
It's the only way to bring me
Belle Norah Jones et Sunrise sur Sud Radio. Direction maintenant le Love Music avec Yvan Cujous tous les soirs 20h, 21h. Toute l'année, le Love Music reçoit les artistes du moment. Et voici tout de suite un extrait de ce qui s'est passé cette semaine.
Le meilleur de Sud Radio.
Pour énerver Claudio Capeo, je prends la trompette et je vais vous faire un petit quiz de choses. Voilà, comme ça que vous allez essayer de. C'est les introductions de quelques petites chansons que vous allez essayer de reconnaître. Moi, j'ai pris là quelque chose de 2007. Attention.
Armstrong.
Alors, est-ce que vous reconnaissez cette chanson? Je refais l'introduction. Attention, c'est un
chanson française.
C'est une chanson française de quelqu'un qui joue de l'harmonica comme Claudio joue de l'accordéon.
Christophe Maé, peut-être.
Yes, 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 yes. En plus, c'est la bonne tonalité, extraordinaire.
C'est vrai, mais il est bon à l'harmonica.
Il est très bon.
Ah, il est très très bon. Attention.
Il a travaillé avec Greg Zilla. Vous connaissez l'harmoniciste de Johnny Hallyday. Ouais. C'est un tueur. Hein.
Magnifique.
C'est un tueur,
hein. Magnifique.
C'est un grand musicien. C'est un très très bon musicien.
Ouais,
Christophe
ouais,
Maé.
Exactement.
Deuxième, peut-être celle-ci. Ah, celle-ci. Elle va parler à Claudio. Il y a de l'accordéon dedans, donc il est heureux.
Joli soleil.
Ah oui.
Joli soleil. Joli soleil.
Ça c'est pas la bonne tonalité.
C'est quand même très bien. Même...
voilà quelqu'un aussi, le groupe Au Petit Bonheur qui a intégré
Au
l'accordéon.
Petit Bonheur, ouais, c'est
comme
ça.
En son temps, mon amour est parti dans les grottes d'Oracle. Il y en a quand même des antécédents.
Il y en a, il y avait la Rue Quétanou, il y avait beaucoup de groupes.
Rocamadour.
Rocamadour, voilà. Souvent on me dit, oui, tu ramènes l'accordéon au goût du jour. Peut-être, mais il y en a bien eu d'autres avant. Hein. Je suis pas le premier.
Non,
quoi,
mais sûr, mais sûr, mais sûr, mais sûr. Mais c'est, et puis c'était l'accordéon est un instrument quand même qui est un des instruments les plus joués dans le monde entier. Au-delà de la guitare, je crois que ça se vaut et que l'accordéon est vraiment, vraiment un instrument beaucoup joué.
En tout cas, en France, jusque dans les années 60, c'était un des instruments vedettes.
Ouais, ouais, tout à fait.
Le musette et tout ça, c'était extraordinaire.
Ouais.
Et ça swingait.
Ouais, ouais. Et ça dansait, il y avait les balles populaires.
Ouais, ouais. C'est ça.
Ah, c'était beau.
Les fameux balles populaires, trompette, accordéon. Une fois que tu avais la trompette, accordéon, il y avait besoin d'en rien d'autre.
Bah, c'est vrai, mais tout à fait. Hein.
C'est tout ça. À fait. Il ne jouait pas de l'accordéon, Bruce Springsteen.
Il avait un musicien qui jouait l'accordéon.
Jean-Michel Guédon. Ah ouais, dans le groupe.
Ah ouais, tout à fait. Danny Federici, qui était le clavier, mais qui jouait aussi l'accordéon et qui a accompagné Springsteen à l'accordéon sur certains morceaux.
Ah, voilà. Alors, là, on va avoir donc la sortie du nouvel album de Bruce Springsteen qu'il avait mis. Il a mis du temps à l'écrire. Ça fait 7 ou 8 ans qu'il n'avait pas sorti d'album. Bruce Springsteen.
Non. En fait, il a sorti un album l'année dernière qui s'appelait Western Stars, qui était un album plutôt country avec un orchestre de cordes, etc. Donc c'était très très sirupeux, très joli. Mais avec la particularité de nouvel album, c'est qu'il a enregistré avec le East Street Band, avec qui il n'avait pas collaboré depuis 6 ans.
Ah, voilà. Son groupe Band, historique.
Son groupe historique, un peu comme Claudio, sa famille, parce que ce sont les musiciens qu'il accompagnait dans les groupes avant qu'ils soient connus, il les a gardés avec lui. Et Springsteen, la qualité principale de ce musicien, c'est d'être quelqu'un d'absolument authentique et sincère, et c'est, je pense, dans le métier un cas à part parce que il a des valeurs très très fortes et c'est quelqu'un de très 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 droit. et de très fidèle. Voilà, donc il faut le souligner.
Claudio, ouais. on sent un danger à un moment donné, peut-être, dans le fait qu'on puisse un peu perdre pied quand on a vendu un million d'albums cumulés, on est disque de diamant, double disque de platine. On se dit, attention, il faut que je fasse gaffe, là, je risque un peu de partir en vrille.
Hein. Ah bah ouais, oui, c'est sûr, parce que c'est pas rien. J'y ai pensé, mais à aucun moment, je me suis dit, je vais partir en latin, tu vois. En tout cas, là, dans le sens, je vais prendre le melon, je prends la grosse tête, je vais complètement, tu vois, pas du tout. Il y a pas eu ces délires-là. C'est juste que j'ai eu du mal à le vivre en fait, et puis à supporter cette nouvelle vie et ce truc où les gens viennent chez toi, et les gens t'idolâtrent, et les gens te regardent, et les gens des photos. C'est plus ça qui m'a dérangé les premières années en fait, au final, tu vois.
Pourquoi les gens quand ils venaient chez toi, c'est-à-dire que tu devenais espèce d'attraction comme ça de ton village.
Ouais. Et puis moi, je suis toujours resté le même, quoi. Tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir changé.
Je confirme.
C'est juste que maintenant, je le porte plus facilement. Il y a pas de souci. Mais je l'ai intégré en moi. Maintenant, c'est bon, j'ai compris. Que voilà, faire une photo avec quelqu'un, ça fait plaisir en fait à la personne. Et j'ai toujours dit oui, jamais dit non, tu vois. Mais c'est juste que je me sentais vraiment gêné, je me sentais pas à ma place. Je me disais, oh moi je suis rien, moi. Ouais. C'est bon, moi je suis que chanteur, hein. Je suis que dalle. Hein.
Je reviens dans ce lien à ta famille que tu évoques finalement à travers l'Italie que tu évoques dans Penso a te. Ce nouvel album apparaît le 27 novembre. Quand ta famille constate cet état de personnalité connue, ça c'est aussi physiquement, quand on voit des gens qui viennent te demander des selfies, etc., ça doit être aussi très émouvant de
voir. C'est vrai que c'était marrant. C'était marrant qu'ils puissent découvrir un peu la vie que je mène, en fait, quoi, tout simplement. Même quand c'est très rare, mais si j'ai ma maman avec moi ou ma sœur ou quelqu'un de très proche, et puis cette personne découvre l'univers dans lequel j'évolue, souvent les personnes sont un peu choquées, quoi, en disant oh, putain, mais en fait t'es même reconnu dans la rue partout, tu vois, les gens te reconnaissent pour moi, Claudio. C'est vrai que c'est assez dingue, tu vois. Et puis pareil, je vais en Italie alors qu'ils sont italiens, ils sont pas français, donc ils connaissent pas du tout le succès que j'ai en France, et puis là je leur dis il y a Gian Nannanini qui va venir chanter avec moi sur un morceau et tout.
Ah bon,
Claudio, tu te fous de ma gueule,
comme ils te foutent de notre gueule, c'est là, ils rigolent.
Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ils m'ont pas cru. Hein. Ils m'ont pas cru.
Je te laisse, Zucchero qui m'appelle.
Non, mais tu vois, j'ai dit envoyer la photo au studio avec John pour leur montrer que c'est la vérité. Non, Claudio, non, est vero mal. C'était rigolo, j'adore, quoi. Tu vois, c'est trop beau, quoi.
C'est beau.
Des petites histoires comme ça.
C'est trop loin. Et puis ça montre que voilà, il faut y croire. Il faut croire en sa destinée, en ce que l'on fait. Parce que voilà,
il faut travailler.
Tu n'es pas quelqu'un qui a été coopté, qui a été appuyé par des gens, qui a été favorisé, qui est arrivé à la force du poignet, quoi. Exactement.
Je suis à ses rêves.
Ouais, exactement.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Yvan Cujus et le Lost Music tous les soirs, 20h, 21h sur Sud Radio. Juste avant le Lost Music, eh bien, il y a les vraies voix, 17h, 19h. On vous accompagne tous les soirs au retour du boulot ou au retour de la plage, hein, puisque c'est l'été et c'est le meilleur de Sud Radio. Et justement, comme c'est le meilleur de Sud Radio, on réécoute tout de suite un extrait de cette semaine des vraies voix.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
La condition féminine qui s'obscurcit à vue d'œil en Afghanistan avec le retour des talibans. Question que nous vous posons, est-ce que le retour des talibans à Kaboul et en Afghanistan aura des conséquences sur les droits des femmes ailleurs dans le monde? Pourquoi pas en France? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Ça y est, c'est fini. Les talibans ont gagné, les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul. Les vitrines, je le disais, des commerces féminins qui repeignent leur publicité avec des femmes pour pas que ça se voie. Mais malgré tout, il reste quelques femmes courageuses et qui prennent quelques risques. C'est une image assez incroyable qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux ce matin. Écoutez, c'est très rapide. Ce sont quatre femmes que vous entendez, quatre femmes seulement, qui manifestent avec des pancartes pour demander de garder le droit de continuer à travailler. Elles manifestent face à des talibans qui sont armés, qui sont les nouveaux maîtres de la ville. Est-ce qu'elles pourront le faire indéfiniment sans être embastillées ou alors sans être exécutées? C'est la question qu'on est en droit de se poser. On accueille notre invité, Reza Jaffari. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes né en Afghanistan, vous êtes en France, vous êtes français, vous êtes le président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. À brûle pour point, d'abord, cette question que nous nous posons. La condition des droits des femmes, la situation des droits des femmes en Afghanistan. Est-ce que le retour des talibans aura des conséquences aussi sur les droits des femmes ailleurs et jusqu'ici? Et si oui, lesquelles?
Alors oui, bien sûr, ça a déjà commencé en Afghanistan dans pas mal de provinces et pas mal de districts. Mm-hmm. Les talibans sont encore un petit peu tolérants dans la capitale, puisque aujourd'hui, avec le départ d'Ashraf Ghani et comme le président Ashraf Ghani, il n'a pas démissionné, il n'a pas signé sa démission, il n'a pas fait de passation de pouvoir. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, les talibans cherchent à se rendre légitimes. Mais c'est pour ça que les femmes ont droit encore d'être sur les réseaux sociaux, d'être
de manifester éventuellement.
Alors ça, c'est, je ne sais pas si c'est une démonstration des talibans, mm-hmm, de demander à quelques femmes de manifester pour
de propagande.
Que, ouais. Oui, et sinon, ces femmes sont vraiment très très courageuses. Parce que les talibans, ce qu'ils font aujourd'hui, ils essayent de repérer, ils essayent d'identifier les personnes qui sont contre les talibans. Mm-hmm. Et une fois que la communauté internationale se retire, on sait que le 31 août, les Américains vont probablement, ouais, partir. Mais il faut savoir que dans pas mal de zones, hier soir, on a reçu des images d'une zone reculée de province de Dainkondi. Mm-hmm. Ils ont commencé à faire des porte-à-porte, fouiller chez les gens, ouais, arrêter les gens, et aussi dans les villages, à aller marier les filles de 12 ans aux, mm, talibans. Et même ce
force.
Soir même, mariée de force, bien
des
sûr.
Soldats,
oui. Et ce soir même, là, j'étais encore au téléphone parce que j'ai une trentaine de jeunes filles qu'on essaye de les faire venir en France. Mmh. J'ai encore trois qui sont à l'aéroport et ils me disent que quand la nuit tombe, les talibans arrivent et les talibans vérifient. Mmh. Les anciens soldats, les anciens militaires, les anciens généraux, les talibans les arrêtent dans la nuit quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a rien. Même à Kaboul, même, ça a déjà commencé.
Donc, qui sont ces jeunes filles, pardon, qui sont ces jeunes filles, Reza, s'il vous plaît?
Alors, ces jeunes filles, pour la plupart, c'est des journalistes, mmh, on a aussi, dans les jeunes filles, on a des policières, on a, mmh, des interprètes qui ont travaillé avec des Américains, qui malheureusement, les Américains les ont abandonnés aujourd'hui. Mmh.
Ça veut dire qu'elles sont toutes identifiées comme ayant pu travailler ou collaborer avec les forces occidentales et qu'elles sont en danger?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Elles sont toutes identifiées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'instant, les talibans, ce qu'ils font, là, les talibans avaient annoncé que la guerre est terminée et que tout le monde est pardonné et que les gens peuvent venir chercher des lettres de pardon. Ouais. En fait, ces lettres de pardon, ça leur servent parce, puisque sur ces lettres de pardon, ils notent aussi l'adresse de la personne. Ils disent, voilà, donnez-nous votre fonction. Mm-hmm. Ils écrivent la fonction.
Pour vous, c'est un piège.
Avec l'adresse, bien sûr, c'est les adresses. Mais hier, je me suis entretenu avec l'ambassadeur d'Afghanistan en France. Il connaît très bien les talibans puisqu'il était chef de province de Kandahar, d'où ça a commencé le mouvement, mm, des talibans. Et pour lui, ce qu'ils font les talibans aujourd'hui, c'est vraiment tout est déjà planifié et qu'il connaît comment...
Et il sait comment ça va se terminer.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Les vraies voix que vous retrouvez tous les soirs 17h-19h sur Sud Radio. Dans quelques instants, un extrait de notre grand matin été. Ne bougez pas, c'est le meilleur de Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Vous voulez savoir ce qu'il s'est passé cette semaine sur Sud Radio? Ne bougez pas, avec un extrait du grand matin été dans quelques instants. Mais d'abord, c'est le grand retour de Native. Voici Si la vie demande ça sur Sud Radio.
Si la vie demande ça. Chez moi, sur les murs et dans les coins de ma vie, il me torture ou bien il me ravit. Je le garderai volontiers sur moi, car jamais, jamais il ne m'a trahi. Ici, il sera toujours à l'abri. Si j'ai de la haine, ça n'en vaut jamais la peine. Je peux la comprendre, jamais je ne voudrais la désirer.
qu'un souvenir à présent. Trop beau et je nous en veux tellement que si tendrement devient un tourment. Je vais oublier les portes qui claquent, les sauts de nos humeurs un peu fantasques. Arrêtez d'être la pêche à ton arc. Seulement la douceur de nos joies me suit.
Elles avaient été choristes du groupe Niagara ou encore de Gérald De Palmas dans les années 90 avant d'exploser avec tous leurs tubes. Le groupe Native est de retour avec Si la vie demande ça, c'est un remix et ça nous fait très plaisir. Un petit tour du côté du Grand Matin été tous les matins avec Benjamin Glaise et Marie Niro, 6h, 10h. On écoute tout de suite un extrait.
Sud Radio, le Grand Matin été, 7h, 10h. Benjamin Glaise, Marie Linero.
C'est François Desart qui est avec nous, créateur de Belle-Île Camper Van. On est dans le Morbihan avec lui. Bonjour.
Bonjour François.
Oui, bonjour Sud Radio.
Ah, on va se rafraîchir avec vous. Hein. C'est bien ça, sur l'île de Belle-Île. Vous, vous proposez alors quelque chose de très original que je trouve absolument fabuleux. C'est des vannes des années 70, c'est ça, à louer pour faire le tour de l'île.
Effectivement, ouais, ce sont les vieux combis mythiques de chez Volkswagen ouais. Que j'ai mis en location, aménagé en mini camping-car sur Belle-Île-en-Mer, puisque bah, c'est là où je vis tout simplement.
Et c'est pour 2 à 4 personnes. On peut aller jusqu'à 2 adultes et 2 enfants par van.
Oui, le maximum c'est 2 adultes, 2 enfants. Il y en a même où on peut pousser jusqu'à un 3e petit modèle pour les enfants, mais bon, on va dire que ça commence à être serré déjà.
D'accord, et c'est des kilomètres illimités, donc on a le temps. Vous proposez des locations, je crois, de 3 à 7 jours.
Alors effectivement, le séjour minimum est de 3 jours. Ça peut aller jusqu'à la semaine. Et les kilométrages sont illimités, évidemment, puisqu'on est sur une île. Alors, c'est la plus grande des îles du Ponant, elle fait 20 km sur 8. Il y a beaucoup à voir. Mmh. Mais effectivement, une fois sur l'île, je reste à proximité des clients. Et donc là, le kilométrage est illimité.
Donc, on peut venir sur l'île même sans prendre la voiture. En fait, on a le van en arrivant dessus et on est libre après de se balader sur toute l'île.
C'est ça. En fait, mes clients arrivent en tant que simples passagers, ne passent pas leur véhicule, ce qui leur permet déjà une certaine économie.
Ça, c'est sûr.
Et je les accueille au port, où là, après, on passe une petite heure ensemble, où je leur donne toutes les informations en main pour qu'ils puissent profiter au mieux à la fois du combi et de Belle-Île-en-Mer. Et ensuite, ils sont libres comme l'air.
C'est super. Et d'où vous vient cette idée de van?
C'est
ça revient à la mode, mais...
Alors oui, maintenant c'est très très à la mode, mais l'activité je l'ai créée en 2014.
Ouais.
Et cette idée, je l'ai eue suite à un voyage en Australie où j'ai fait le tour de l'Australie pendant 2 ans à l'arrière d'un 4x4 que j'avais aménagé.
Ah oui, tout
seul. Donc je vivais dans un 4x4, donc c'était un petit espace, mais pour l'aventure c'était idéal.
Ouais.
Et à ce moment-là, en Australie, effectivement, bon, tout ce qui est camping et outdoor en Australie ou dans les pays anglo-saxons sont beaucoup plus développés, en tout cas à l'époque, étaient beaucoup plus développés qu'en France. Et effectivement, la location de van existe en Australie depuis des années.
Ouais.
Et je m'étais dit que c'était quelque chose qui pourrait être fait, mais si je le faisais à Belle-Île, ça serait avec du combi Volkswagen des années 60.
70 effectivement. Ouais.
Et vous en avez eu 6 tout de suite ou vous avez d'abord testé avec un puis deux?
Non. Ouais, petit à petit, évidemment. Oui. Ouais, petit à petit. Deux combis au début qu'on a restauré avec un pote pendant un hiver.
Ouais.
Donc ça a commencé, pour tout vous dire, dans le fond du jardin de mes parents, dans
Google.
Une cabane de jardin en guise d'accueil, voilà. Mais après, assez rapidement, les encouragements et le retour des clients étaient d'emblée très positifs.
Oui.
Donc même si, on va dire, le chiffre d'affaires n'était pas encore là, la motivation et la volonté pour développer la prestation était tout de suite bien réelle.
Quoi. Ouais, l'idée a séduit tout de suite les gens.
L'idée a séduit, il y avait de l'engouement d'emblée. Ouais.
Ouais. Et alors le nom des vannes aussi, j'ai trouvé ça mignon. Vous donnez à chacun de vos vannes, en fonction de sa couleur, un petit nom différent. Le vert, comment vous l'appelez, le vert ?
Alors le vert, il y a deux combis verts, il y a le Hulk qui est des années 80 et puis il y a Denver, le dernier des dinosaures. Donc tous mes combis ont un nom de personnage de fiction rapport avec leur couleur parce que c'est des vannes qui sont tous un peu uniques avec le temps qui est passé. Ouais. Ils ont chacun des petites particularités et donc je trouve qu'ils ont une personnalité chacun à part. Ils ont aucune conduite est similaire, aucun aménagement n'est similaire. Enfin, il y a bien sûr beaucoup de points communs, mais en fait, ils ont chacun leur personnalité. Et oui, donc, je trouve que leur donner un nom de personnage de fiction leur colle parfaitement.
Oui, et puis je pense qu'effectivement, quand on se fait cette balade sur Bali avec son van, après, il y a un truc un peu affectif, je pense. Enfin, le retour, ouais, c'est ça.
Ouais,
et Belle-Île, en plus, alors vous proposez une dizaine de bivouacs où les gens peuvent s'arrêter pour dormir et passer la nuit.
C'est ça. Alors c'est la particularité de ma prestation, peut-être comparée à d'autres loueurs de véhicules sur le continent, c'est que vu qu'on est sur une île qui est extrêmement protégée, je ne pouvais pas faire de la location sans donner aussi un point de chute.
Oui,
il fallait absolument cadrer cadrer l'offre de la location de combi avec qu'elle soit en accord avec la politique de l'île. Et donc j'ai eu des autorisations avec les différentes mairies de l'île pour avoir certains parking de plage pour bivouac.
D'accord.
Donc c'est un peu des bivouacs comme au bon vieux temps, mais au moins je suis sûr que là mes clients ne dérangeront personne, que personne ne les dérangera.
Qu'il n'y ait pas un stress lié à ces 3 ou 7 jours de vacances.
Voilà, pour une première expérience de vie en van, très vite on peut se rendre compte que justement la problématique du bivouac peut être à la fois, en fait, ça peut être à la fois une source d'aventure et de rencontres, et puis à la fois ça peut être aussi un petit peu une galère. Donc effectivement, pour mes clients qui découvrent Belle-Île, qui découvrent des fois les vieux véhicules, qui découvrent la vie en van, ça faisait beaucoup de premières fois.
Oui.
Donc au moins, il fallait au moins leur proposer des bivouacs avec un petit guide que j'ai créé qu'ils ont à bord, qui leur permet de bien se repérer sur l'île et de trouver les bons bivouacs.
Oui, parce que c'est vrai, quand on loue pour 3 jours, le temps de s'adapter, on se dit non, c'est trop court, on va recommencer.
C'est ça, il y a un temps d'adaptation. Il faut le reconnaître qu'au détriment d'un petit peu de confort, on va gagner en aventure et
bien
en
sûr.
Liberté, clairement.
Et en autonomie. Effectivement,
quand on arrive avec un couple avec 2 enfants, tout d'un coup, il va falloir vivre dans 3 mètres carrés à 4.
Oui.
Donc, il faut s'adapter. Il y a un peu de méthode à acquérir avant que ça roule tranquillement.
Écoutez, en tout cas, moi, ça m'a donné envie de l'aventure à Belle-Île avec vous. Hein. Franchement, merci beaucoup François Desarts, créateur donc de Belle-Île Campervan dans le Morbihan. Et on a toutes les infos sur votre établissement sur belleîlecampervans.com. C'est bien ça ?
C'est ça, exactement.
Écoutez,
merci à vous.
Merci infiniment, ça nous a rafraîchis ce matin.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Le grand matin été, 6h-10h qui vous réveille dès lundi matin, de nouveau avec Benjamin Glaise et Marilyn Hérault. Puis tous les programmes de Sud Radio que vous trouvez sur notre site sudradio.fr et vous pouvez réécouter les podcasts sur notre site ou bien sur les plateformes de podcasts habituels. C'était Micha, je vous laisse avec les programmes de Sud Radio. Le meilleur de Sud Radio la semaine prochaine, c'est Trina qui revient pour vous concocter les meilleurs moments de la semaine. D'ici là, portez-vous bien.